Libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie.
Bonjour et bienvenue sur Radio Aligre en ce vendredi 26 juin, il est 18h et je suis Emmanuel Gavard, la doublure de Paul de Prension qui vous accompagne habituellement le vendredi pour l'émission Chute Libre. Et aujourd'hui, pour clore une semaine bien chaude et bien chaude, nous n'avons pas un mais deux invités dans le studio, nous sommes trois autour de la table. Nous avons deux langues, deux poésies, différentes images et des mots qui se sont trouvés, qui se sont accueillis et qui vous parleront des effets de leur rencontre sur leur inspiration. Maud Thiria et Anaël Chadli, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous deux. Alors, on a décidé d'appeler cette émission Duolingua, déjà parce que c'est un jeu de mots rigolo en rapport avec l'application bien connue, mais aussi parce qu'au départ, il y a bien deux entités distinctes, un duo de langues, deux artistes différents qui s'expriment différemment, qui présentent ici des œuvres différentes, mais nous le verrons, qui vont se rejoindre. Alors Maud Thiria, vous êtes poétesse, vous êtes aussi artiste visuelle. Vous avez commencé à publier dans des revues d'abord, et votre premier recueil en 2017, Mesure au vide, publié aux éditions Ancrage & Co, qui a été sélectionné pour le prix du premier recueil. En 2020, vous avez sorti Blockhaus, chez le même éditeur, qui lui a été sélectionné pour le prix Révélation Poésie de la SGDL. Ensuite, vous êtes allé chez Lanskin, avec Trouée, en 2022, d'ailleurs on en reparlera sûrement. Falaise au ventre en 2023, déshérente en 2024, après une résidence à l'hôpital Bretonneau, dans le 17e arrondissement. Vous animez des ateliers régulièrement auprès de personnes en difficulté sociale, auprès de migrants, de réfugiés politiques, de détenus, à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, et vous faites aussi ça dans les lycées. Et plus récemment, on vous a trouvé aussi dans des anthologies, dans le livre « Ce que les femmes font à la poésie », un recueil sur la place des femmes et le rôle du genre dans la poésie. Et donc là, vous sortez tout juste Langue torse, un livre tissé sur le mythe de Philomèle, dont vous nous expliquerez tous les détails. Et à côté de vous, donc, Anaël Chadli. Alors vous êtes artiste visuel et poète. Vous pratiquez le dessin, la peinture et l'écriture. Et comme vous le dites, dans le plus grand désordre, mais non sans méthode. Vous travaillez notamment depuis 20 ans sur ce que vous appelez la langue comme écriture. C'est-à-dire que, en fait, vous dessinez avec les mots. Alors, vous nous expliquerez ça aussi un petit peu. Vous avez réalisé de nombreuses expositions. Je renvoie d'ailleurs à votre site internet pour avoir toute la liste. Et on vous retrouve en ce moment dans une galerie qui est la galerie...
à Pierre, ici, à Paris, dans le 11e arrondissement.
D'accord. Et donc, vous sortez un livre, également aux éditions Lanskin, qui est paru en même temps que celui de Maud Thiria et qui s'intitule « Poème à Maud », justement. Alors avant de s'aventurer sur les liens qui unissent ces deux ouvrages, avant de tisser tout le fil de votre histoire, on va commencer par les présenter séparément et rentrer directement dans chacun d'eux. Alors Maud, Langue torse, c'est un livre de poésie tissé sur le mythe de Philomèle. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer le mythe de Philomèle et ce que vous avez voulu faire à travers ça ?
Oui, alors le mythe de Philomèle, tel qu'il est raconté, chanté même par Ovide dans les Métamorphoses, dans son livre 6, j'en ai eu vent quand j'ai reçu le prix René Lénaud de résistance et d'engagement pour mon livre Troué. Donc c'était en 2023 et il se trouve qu'il y a un oiseau sur la couverture et qu'il y a une image d'oiseau à l'intérieur du texte. Et que c'est un texte sur les violences faites aux femmes, au corps des femmes. Il se trouve qu'à ce moment-là, une des membres du jury m'a dit « J'imagine qu'en écrivant ce texte, tu pensais aussi au mythe de Philomèle. » Et je ne connaissais pas le mythe de Philomèle, donc non, inconsciemment, sans doute, j'ai mis un oiseau sur la couverture. Et évidemment, je me suis précipitée, il m'a fallu quand même plusieurs années pour écrire le texte, mais j'ai quand même lu ce mythe. Et puis, au bout de pas mal de temps, j'ai décidé d'écrire dessus. Alors, pour le raconter brièvement, parce qu'on a manque de temps, en très très gros, c'est il se trouve que Théré, qui est le roi des Thraces, gagne certaines victoires par rapport à Athènes, et le roi Pandion, le roi d'Athènes, lui offre sa fille aînée Procné en mariage. Il la ramène dans son pays, en Thrace, et puis ensuite ils ont un enfant, Itys, et peu d'années après, Procné lui dit « Peux-tu me ramener ma sœur ? Elle me manque énormément, ma famille me manque. » Et donc Théré va chercher la fameuse Philomèle dans son pays pour la ramener auprès de sa sœur. Il se trouve que, il tombe sous son charme, ça serait trop flatteur pour lui, mais en tout cas, il ne résiste pas à sa beauté. Et dans la première bergerie venue, il la viole. Et pour qu'elle ne puisse pas raconter son histoire, il décide de lui trancher la langue. Voilà, donc c'est une double mutilation, enfin en tout cas double violence. Et ensuite, il l'a fait passer pour morte auprès de sa sœur Procné, l'histoire s'arrêterait là, mais il se trouve que Philomèle, dans la bergerie, trouve un vieux métier, enfin qu'elle construit, on imagine, qu'elle va tisser son histoire pour la raconter à sa sœur, et elle fait porter par une servante son histoire. Sa sœur la délivre, je crois que c'est au Bacchanal, donc une fête déguisée où il y a plein de bruit, plein de... voilà. Et elles décident toutes les deux de se venger, de venger ces actes-là de Théré en lui faisant manger son fils. Donc elle le cuisine, elle le tue d'abord, le pauvre innocent quand même, mais bon, et qui est aussi le fils de Procné, donc c'est particulier, mais elle le tue, c'est la fin d'une lignée, et puis elle le cuisine, elle lui donne à manger, et quand il demande où est mon fils, elle lui dit « il est en toi ». Et là, Théré leur court après, pour lui échapper, elle se transforme l'une en hirondelle et l'autre en rossignol. Alors, selon les versions, c'est Philomèle en hirondelle, qui serait plutôt le cas dans Ovide, mais il y a un rossignol qui s'appelle le rossignol Philomèle, donc voilà, donc ça dépend des versions.
Donc c'est un mythe avec toute une réflexion sur la langue coupée et comment, par le tissage, on va pouvoir... raconter cette histoire, témoigner et peut-être même d'autres choses avec ce verbe qui pourrait sortir d'une autre manière.
Oui, exactement. Sachant que la langue, c'est à la fois l'organe, mais c'est aussi le langage. En fait, c'est le double sens du mot langue. Et que là, c'est particulièrement frappant, parce qu'on pourrait dire que c'est une symboliquement, ça signifie aussi la perte d'un langage. Comment retrouver une autre forme de dire par les mains, puisqu'il lui reste les mains à elle. Donc elle va tisser, et on ne sait pas d'ailleurs si elle va tisser par image, en fait, ou elle va tisser par lettre, langage. En fait, en langage.
C'est pas précisé dans
c'est
le mythe.
C'est pas précisé, et c'est tout l'intérêt aussi. Hein. Martin Rueff en parle très bien dans Au bout de la langue, et voilà, donc que pour lui, c'est la première écrivaine, voilà, parce qu'en fait, elle écrit plutôt son histoire. Mais voilà, après, chacun a sa version, c'est ça qui est très intéressant.
Parce que si elle fait des images, ça peut être la première poète aussi.
Mais qu'est-ce qui fait d'elle, voilà, la poète ? Est-ce que c'est par... justement l'utilisation d'un métier à tisser d'un autre langage qui serait justement être artiste, mais c'est peut-être aussi de se venger, de donner voix aux femmes. Ce serait peut-être une image de la poétesse plutôt qu'une image de la poésie, parce que certains disent c'est l'image même de la poésie. Je dirais plutôt que Philomèle est l'image même de la poétesse,
et qui trouve en plus son langage par l'origine du mal du patriarcat qui va être ce viol.
Voilà, c'est ça, exactement.
Pure domination.
Oui, exactement. Et sa vengeance, qui est finalement de tuer la lignée, enfin de mettre fin à la lignée, montre bien aussi, c'est mettre fin à
ce rapport à la langue absente. Il est présent dans le mythe originel, chez Ovide.
Oui, alors chez Ovide, en fait, il y a un passage que je peux lire. Alors, dans la très belle traduction de Marie Cosnet, donc je lui rends hommage, aux éditions de L'Ogre. Ce qui est intéressant, c'est justement pourquoi c'est le passage où il va lui couper la langue. Enferme-moi dans les forêts et je remplirai les forêts, je toucherai les rochers, ils sauront. L'air m'entendra, le dieu aussi, s'il y en a dans l'air. » Ces paroles agitent la colère du sauvage tyran, et sa peur aussi. Excité par l'une et l'autre, il libère son épée du fourreau, à sa ceinture, attrape la fille aux cheveux, bras tordus dans le dos. Il l'enchaîne. Philomèle prépare sa gorge. Elle a conçu, en voyant l'épée, l'espoir de la mort. Révoltée, elle crie le nom de son père, lutte pour parler. À la pince, il lui saisit la langue, la tranche de son épée sauvage. Une petite racine de langue sautille. Elle s'écroule et, tremblante, murmure contre la terre noire. Comme une queue de couleuvre mutilée saute encore, palpite en mourant, cherche les traces de sa maîtresse.
Et vous, à travers Langue Torse, vous avez voulu tirer, retrouver la langue perdue de Philomèle. Vous avez voulu essayer de creuser comment elle retrouvait sa langue. Vous avez essayé de faire une ode à la langue. Quel était le projet un peu derrière cet ouvrage ?
Alors, c'est vrai qu'il part en fait de ce mythe-là pour... Non, à part dans les toutes premières pages que je lirai plus tard, mais où vraiment j'évoque Philomèle, il y a des moments où je fais allusion à Philomèle, mais c'est plus partir du mythe pour en faire la représentante actuelle, puisque malheureusement la violence est toujours là et on le sait, cette violence sexuelle sur les femmes. Donc en fait, c'était un point de départ, mais c'est aussi finalement une figure presque de proue de la femme aujourd'hui. Donc c'était pas tant revisiter le mythe, parce que je le garde peut-être sans doute pour plus tard, c'est un autre projet, mais c'est plus le prendre comme point de départ et dire, maintenant, si la langue de Philomèle devait repousser, puisqu'on parle de langue qui frétille dans un coin comme une queue. D'ailleurs, j'utilise beaucoup le terme de queue dans mon texte, qui est à la fois ce qui s'érige et puis ce qui est peut-être de la domination masculine, mais là, qui est reprise par le féminin. Si elle repoussait, elle repousserait sans doute dans toutes les directions possibles. C'est-à-dire que je lui donne en fait une vivacité extrême. C'est-à-dire que c'est sur la page. C'est-à-dire que d'habitude j'écris plutôt par petits blocs, et là tout d'un coup il y a une explosion sur la page où les mots,
très visuel,
voilà,
dans le
c'est
livre,
très
tout
visuel.
Éclaté,
voilà,
là,
exactement, toute la largeur de page qui n'est jamais le cas chez moi. Il y a plein d'espace, il y a plein de donc c'est à la fois une langue explosive et explosée qui tord la langue justement. Langue torse, c'est à la fois tordre la langue pour finalement un peu exploser tous les codes de la société, les codes syntaxiques, en employant aussi une langue extrêmement libre. Enfin, quand je dis langue, c'est langage, mais vraiment de tous les registres de langue qui sont donc des mots très familiers, il y a des mots très vulgaires, et en même temps s'autoriser aussi le désir. C'est-à-dire que c'est si elle devait repousser, elle serait sans doute vengeresse, elle serait sans doute en tout cas libre et très libérée, donc elle se permettrait justement tous les modes de langage, mais en même temps, elle s'autoriserait aussi le désir finalement alors qu'elle a été violée.
Comme si cette langue coupée était encore en vie, et que vous
très vivante en fait. Voilà,
je propose de lire la première page, après on partira sur une musique. Langue torse, difforme, c'est la première page du livre, langue torse, difforme par trop de doigts autour, sculptée, empêchée. Langue femme torse, grimace, bouche, trou. Échapper à, case, par, vide imprenable. Faire creux, tiède, brèche, mais tiède. Sans plus correspondre, répondre à moule, ville, millénaire. Plus de dents que morsures, multiples mutilées. Langue torse sur tronc, offrande. Les regards creux, quémande. La viole de sang frais. Attaché langue sur torse, palpite encore entre deux sons brisés. Il est temps que langue femme accouche contre torse, mais encore langue doit faire doigt d'honneur. En torse, les siècles de mythes torves salis de morve.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
My lover crosses his life with a ghost, is my lover knows why. Wandering souls from shooting stars, for my lover offers silver. Silence is sheer, puts on our tongues, and when we listen to my lover's songs, we are so ill. Breathing shadows, my lover, we are so ill.
Mansfield Tia sur Radio Aligre. Vous êtes dans l'émission Chute Libre. Je suis avec Maud Thierrien et Anaël Chadli pour leurs livres respectifs Langue Torse et Poème à Maud. Donc on a parlé tout à l'heure de Langue Torse et du mythe de Philomèle avec Maud Thierrien. Et maintenant nous allons voir avec Anaël. Vous venez de sortir chez Lanskine Poème à Maud. Vous êtes artiste visuel, c'est un livre de poèmes. Est-ce que c'est courant ou est-ce que c'est déjà la première fois que vous sortez un livre de poèmes ou pas? Vous avez déjà publié d'autres choses par le passé. Expliquez-nous quelle est la genèse un peu de ce livre.
Alors, c'est vrai que j'ai très peu publié. J'écris depuis 2002, là, le premier texte que j'ai écrit. Mais j'ai très peu publié. C'est pour ça qu'en fait... cette écriture-là n'est pas connue et que je donc ce texte-là il vient après de nombreux textes mais qui n'ont pas été publiés à part un qui s'appelait Note de voix et qui a été publié en 2017 aux éditions Approche. En fait il y a eu toute une période quand même où justement je travaillais j'ai toujours travaillé les deux, c'est-à-dire un travail visuel, un travail par le dessin, et à un moment donné, j'ai quand même eu le désir de faire fusionner les deux, ou en tout cas d'avoir des recherches où ils se rencontrent, et ça a donné lieu à mon travail de paysage d'écriture, qui est très difficile à décrire.
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dessiner avec des mots, mais faut le voir pour voir concrètement ce que ça représente, et la beauté aussi, parce que moi personnellement je trouve ça très beau, et très parlant, mais c'est... comment on pourrait décrire, voilà, le paysage avec les mots, ça crée des dessins, des reliefs, des paysages.
C'est un travail en fait qui a nourri énormément mon écriture à ce moment-là. J'avais vécu des situations où j'étais passé par des comas, deux comas en fait, qui avaient été des chocs dans ma vie, et je sentais que j'avais besoin de transformer mon écriture, que je pouvais plus écrire de la même manière que j'avais écrit précédemment. Et que j'avais besoin de densifier, de rentrer dans un rapport très physique avec la langue, de la prendre presque à bras le corps. Et donc c'est une écriture manuscrite, hein, c'est ce qu'on peut dire aussi. Donc oui, c'est une écriture manuscrite, c'est pas une écriture dactylographiée qui serait agglutinée mais c'est une écriture manuscrite. Et donc c'est trouver une densité et une densité telle qu'en réalité on ne puisse pas simplement la survoler. Qu'elle implique chez nous un vertige.
Au point qu'on peut presque même sur les dessins ne plus la lire.
C'est ça.
Et pourtant elle existe.
Exactement.
Et on la voit.
C'est ça. On sent qu'il y a une matière, qu'il y a un matériau qui était proche pour moi de l'humus, c'est-à-dire qui était l'équivalent du langage comme l'humus du sol, et qui travaille d'une manière aussi très, très invisible, ou disons d'une manière organique, et qui échappe simplement à l'explication ou à la conscience pure et simple. Et voilà, donc je suis passé par tout ce travail-là. Après, j'ai écrit un texte qui s'appelait Double aveugle. Donc aussi, il y avait cette question-là d'approcher le langage de façon par justement ce qui échappe, par la non-maîtrise aussi. Voilà,
et donc, à partir de là, vous avez voulu tenter autre chose avec ce livre Poème à Maud? Est-ce que c'est la concrétisation d'autre chose? Est-ce que c'est une évolution de votre rapport au langage? Ou est-ce que quand vous travaillez sur ces textes paysages, il y avait quand même, dans le fond, vous aviez une pratique de l'écriture plus classique, on va dire, poétique?
Je sais pas si j'ai une pratique classique, hein. J'ai écrit des livres qui sont, mais c'est toujours des espaces entiers. D'ailleurs, je pense que comme Maud, ces livres, en fait, on peut pas détacher des poèmes ou des pages simplement. Oui. Ce sont des espaces. En fait, moi, je considère le livre comme un espace.
Comme une pièce entière. Voilà, dans laquelle on va rentrer.
Exactement. Et c'est vrai que dernièrement, c'était quelque chose qui m'était refusé. Et Poème à Maud, en fait, renoue avec la possibilité de cet espace-là du livre. Et j'ai vécu pendant quelques années sans plus de possibilité, justement, de faire espace par l'écriture. J'écrivais des poèmes, un peu ce que j'appelais des poèmes célibataires. C'est-à-dire, finalement, c'est les poèmes qu'on va recueillir pour faire un recueil de poésie.
Faire un recueil de poésie.
Mais moi, je ne sais pas faire un recueil de poésie. J'ai besoin d'avoir l'espace, un champ et...
D'accord. Et donc c'est pour ça que Poème à Maud n'est pas un recueil de poèmes.
Non.
C'est un ensemble dans lequel il y a une unité de poèmes différents.
C'est ça.
Comme un collier de poèmes, on pourrait dire.
C'est ça, et c'est aussi quelque chose qui se joue, qui s'impose. Enfin, pour moi, j'ai écrit le premier poème, je pense, parce qu'il y avait quelque chose d'assez puissant qui se passait, dont j'avais la nécessité d'inscrire au moins la présence, voilà, d'inscrire la présence de ce qui arrivait, de ce qui était en train et d'en garder, sinon d'en garder trace, au moins d'essayer de lui donner un espace, de trouver un lieu.
Je propose qu'on commence et qu'on en lise un ou deux ensemble. Je peux commencer par le premier, donc il y a presque un poème par page, alors je ne sais pas si on pourrait dire une pièce de cet espace. J'aurais pu me taire, être pierre exactement, entièrement comme sur mes arêtes un pied inconséquent, d'un pas inquiet trébuche, comme des mains me saisissent, me chérissent ou se cognent contre mes surfaces comme la vie aveugle me choisit. Pierre a parlé, pierre a en soi creusé cette brèche, ce vide, par lequel du monde absorber l'énergie, l'amplifier, la diffracter, fissurer, la certitude des choses séparées, pour qu'en tout toi résonne, pour que moi sois lèvre entr'ouverte donnant, de l'altérité le goût inaltérable et source de vivre la saveur. J'aurais pu être pierre, n'ai pas voulu, le conditionnel n'a su agripper, se tenir, à mes bords glissants que vivre frictionne d'une huile tendre et décidée. Vous pouvez lire le deuxième.
Tu es Maud, ton lieu est personne ne parlera à cette place d'autre que toi. À cet endroit, je peux simplement te toucher et désirer que s'ouvre en moi, à ton contact multiplement et à chaque instant ensemble, des conjugaisons infiniment ouvertes.
Figure et trace dans le paradoxe du corps auront en toi, en moi, couvert la progression de l'indéterminé.
Oui, nous, aux racines du vivre, accélérant encore la puissance de ramifier en profondeur.
Nous avons dit pas de promesse et réalisé toujours. C'est pourquoi l'écriture du poème de toi trace ces pourquoi nous se tient debout dans le possible. À nous, particules en vibration, dans la jarre brisée des croyances, sous une lumière aveuglante, nous luisons dans l'ouvert. Donc, ce sont des poèmes adressés.
Oui, absolument.
À qui ?
Alors ce sont des poèmes adressés à Maud.
Essentiellement ?
Quasiment entièrement. C'est-à-dire qu'on a vu le premier poème, c'est le pronom « je ». Et j'ai déplacé certaines choses, c'était vraiment par rapport à cet ordre-là. C'est vrai que j'aurais commencé par le « tu ». Mais j'ai commencé finalement par le « je » parce que dans un souci, justement, il y a un autre poème où je dis, je veux prendre ma place à l'endroit que j'ai choisi. Mmh. Et finalement, c'était aussi placer ce poème, le « je » en premier. Pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui est naturel. Je placerai le « tu » en premier, toujours. Ou autre, mais pas le « je ». Et là, de replacer ce « je », c'était important et le tu vient tout de suite après, c'est-à-dire en laissant la place à l'autre.
Un autre pour venir
voilà.
S'ajouter
et le nous,
au jeu
ensuite
et
au
le
troisième,
qui voilà. Vient compléter voilà. La marche. Voilà. Ils ont été écrits d'une manière chronologique. Comment ça s'est produit, comment c'est né en vous ?
Alors ils ont été écrits dans un temps qui a suivi ce moment qui était un moment un peu de transformation, un moment de rencontre quand même. Et en fait, ils ont été écrits sur toute la période, justement, un peu de, à la fois de comment dire, Il fallait réinscrire, en fait. Il fallait réinscrire sa vie, puisque tout changeait. Il fallait réinscrire sa vie, il fallait trouver des lieux, c'était toute une période de transition et de transformation profonde, de mu. Et notamment, j'aimerais, est-ce que je peux lire juste poème
qui est...
Métamorphose. C'est un poème qui parle, le mala, c'est un collier de prière indien. On dit des mantras, par exemple, et on répète le même mantra et un certain nombre de fois. Et on le tourne comme ça. Et le mala, c'est fait d'un certain nombre de rudras, qui sont les yeux de Shiva, en fait. Et ce texte-là, il dit justement cette espèce d'écart entre la conscience que j'ai des choses et la manière dont ils s'inscrivent en moi et dans le corps. Et cette espèce de décalage, voilà. Lorsque sur le mala des jours, un rudra ouvre en moi la vision, seule la fréquence bouge, dans le fondu des images, une note bleue teinte savoir, tandis que tout mon corps déjà a changé de tonalité.
Donc c'est aussi, au-delà des poèmes adressés, il y a quelque part aussi, moi je trouve que ce sont des poèmes aussi un peu introspectifs, il y a une philosophie qui en ressort, de réflexion. On la sent, cette étape de mu, au fur et à mesure du texte. Donc ce sont des poèmes adressés, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de la réflexion personnelle. Et de, je ne dirais pas du journal intime, alors après, on pourrait dire que chaque poème est une sorte de journal intime, mais il y a aussi, on ressent cette transformation. Donc c'est ça. Est-ce que vous avez douté sur le titre, par exemple ?
Oui, ça a été une question, forcément. Simplement, c'est vrai que pour moi, et c'est pour ça que c'est pas si ça avait, ce qui m'a fait douter, c'est si c'était quelque chose qui ne correspondait pas justement, qui ne regardait pas. Qui est-ce que cela regardait et si cela nous regarde plus que aux personnes qui, enfin à moi en tant que trace de vie et puis. Cette adresse à une personne en particulier, c'était aussi parce que, en fait, toute œuvre implique pour moi une transformation. Une œuvre nous transforme, en fait, déjà nous en premier lieu, mais aussi, et elle va impliquer pour le lecteur aussi une possibilité. C'est presque une offre pour justement soi-même.
Une sorte de témoignage de cette transformation qu'on a vécue à travers l'œuvre.
C'est peut-être un témoignage, mais c'est aussi l'énergie déployée à. Et cette énergie-là, c'est la chose la plus forte. C'est cette énergie-là qui se transmet. C'est cette énergie-là qui peut aussi être véhiculée différents regards, qui peut véhiculer.
C'est là où une œuvre, que ce soit un texte, que ce soit une œuvre visuelle, pour le spectateur, pour le lecteur, dans tous les cas, est une rencontre.
Oui, absolument.
Et en fait, l'énergie que l'on va mettre dans notre transformation, notre réflexion, notre expression, va être le témoignage de cette... Enfin, la rencontre va être le témoignage de cette énergie.
Oui, finalement. Oui.
Maud, vous avez vécu, vous ressentez la même chose dans ce qui est dit de l'œuvre, cette transformation ?
Oui, là, je pense que chaque œuvre, de toute façon, moi, j'allais dire au niveau de l'espace, parce qu'on parlait de l'espace, moi, j'appelle pas mes livres des recueils, parce que c'est pas plein de poèmes recueillis.
Oui.
Donc, en effet, c'est en un espace, en un souffle. Donc, ne serait-ce que par ça, en fait, il y a transformation, parce qu'en fait, du début jusqu'à la fin, je change rarement l'ordre, en fait, des textes par page. Ça m'arrive, mais en général, il y a une espèce de souffle comme ça qui fait qu'en fait, l'écriture témoigne en elle-même, au moment même de l'écriture, de sa propre transformation, en fait. Donc, déjà, il y a.
Oui, il n'y a pas de réorganisation. Tout est sorti de
très
manière
peu.
Chronologique.
Alors, de temps en temps, je retravaille. Mais en tout cas, j'aime bien laisser, c'est très rare, ça peut m'arriver de changer l'ordre des poèmes, mais j'aime beaucoup cette espèce de souffle jaillissant, même si ça a mis du temps à mûrir en moi, enfin voilà, c'est assez lent en fait comme processus, mais quand ça sort, il y a quand même quelque chose de l'ordre du jaillissement et de, voilà, qui témoigne d'une métamorphose en cours et qui en plus par l'écriture elle-même transforme la vie, enfin, et les choses. Donc oui, je suis assez d'accord avec ce pouvoir de transformation et puis j'engage, qui engage le lecteur en fait au moment où il le lit.
Au sol vive sans amour, io nu vivo senza ve, che se gana mare se ye, contiga je bem querer. The sun lives without a dream, and I only dream of you. If when the ocean is rising, you rise, then my dream is true. If when the ocean is rising, you rise, then my dream is true. The sun lives without a dream, and I only dream of you. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. I'll know it by the smell, and remember by the taste. The moon so bright and full, let it shine on your smiling face. The full moon so beautiful, but no match for your smiling face. The sun lives without a dream, and I only live for you. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. If the tide is rising high and you arrive, then my dream is true. The sun lives without a dream, and I only dream of you. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. I'll know it by the smell, and remember by the taste. The moon so bright and full, let it shine on your smiling face. The moon so bright and full, but no match to your smiling face.
Le soleil se lève avec le son et nous dansons toute la nuit. Si le soleil se lève avec nous, tu te lèves et nos rêves aussi. Le soleil se lève sans un rêve et je ne rêve que de nous. Si quand monte l'océan tu viens, notre rêve se réalise. Tu en connaîtras le parfum et j'en garderai le goût. La lune est si brillante et pleine qu'elle vibre dedans nos yeux. Vous êtes sur Radio Aligre, Chute Libre, je suis avec Anaël Chadli et Maud Thiria et je viens de vous lire un extrait de Clara Odalua, une chanson de Nazaré Pereira qui est reprise par les musiciens de Roseau, librement traduite et adaptée par Anaël Chadli dans le recueil Poème à Maud. Il est quasiment au milieu du livre. Pourquoi ce poème et cette chanson apparaît ici dans Poème à Maud ?
Alors il y avait dans cette traversée aussi de ce temps où trouvait lieu, il y a eu aussi des musiques qui pouvaient retracer toute une histoire. En fait, il y aurait pu avoir une histoire que par les musiques. Il y aurait pu avoir un livre qui raconte que par les sons, enfin
une playlist.
Voilà,
une playlist qui raconte tout ça.
Ça aurait pu être un film, ça aurait pu être. Il y avait plein de possibilités en fait. Et c'est vrai que ce titre-là a été un titre qui nous a aussi émus et qui faisait partie de
cette transformation. Voilà. Alors vous venez de dire quelque chose d'intéressant, parce que vous venez de dire « nous » qui nous a émus, et c'est un peu le cœur de cette émission aussi. C'est donc Maud Thiria, vous avez écrit « Langue torse », Anaël Chadli, vous avez sorti « Poème à Maud », deux livres qui sortent en même temps et qui ont tous les deux été marqués par votre rencontre. Comment ça s'est traduit dans ses œuvres, dans ses évolutions. Qu'est-ce qui fait qu'elles se rejoignent?
Alors, je dirais, je parle en mon nom, qu'il y a une forme d'émancipation dans nos deux textes, différemment, parce qu'on est justement, on parle pas tellement au nous, parce que moi personnellement, le nous, j'ai un petit peu du mal, je trouve que c'est un peu fusionnel et j'évite un peu l'amour-fusion. Mais en revanche, on a beaucoup de points de rencontre. Je pense que. Que oui, enfin, il y a quelque chose de l'ordre d'une émancipation, pour ma part, pour Langue Torse, qui est de l'ordre de, puisqu'il y a une possibilité de dire qui était déjà présente chez moi, j'ai écrit déjà des textes, j'ai déjà écrit, j'en parlais tout à l'heure, de Troué, qui est une expérience personnelle de violence subie. J'en ai déjà parlé, mais ce texte offre vraiment quelque chose de beaucoup plus grand, je dirais, dans la possibilité qu'une rencontre finalement amoureuse permette de le désir à une personne qui aurait été violentée. Il se trouve que c'est le cas de Philomèle, mais c'est mon cas, c'est le cas de plein d'autres femmes. Et donc finalement, ce texte, il est arrivé à ce moment-là, parce qu'il y a eu certaines discussions, je ne vais pas rentrer forcément dans une intimité, mais il y a eu certains mots de dit, d'un rapport à une société donnée qui était maintenant « ça suffit », par exemple. Il y a un terme que je reprends beaucoup dans Langue Torse, qui est un « ça suffit », qui est prononcé en fait par l'autre et qui dit « on ne peut plus vivre ça ». En fait. Et donc, par rapport à une parole d'homme qui dit maintenant la violence, ça suffit, pour moi, c'était particulièrement frappant venant d'un homme en plus. Je suis très féministe, mais j'accepte la parole d'un homme qui, justement, et puis non seulement je l'accepte, mais j'en fais quelque chose. Enfin, je veux dire, je le prends et j'essaie de transformer sa parole. Mais ça me permettait justement de traiter du désir pour un corps, et donc une femme qui est. Plein de femmes qui auraient été violentées. Ce qui n'est pas évident, parce qu'en fait, on va parler beaucoup de vengeance, on va parler beaucoup de réparation, mais finalement, le désir, comment faire après? Est-ce que c'est encore possible de désirer et que ce soit l'autre, l'homme en l'occurrence, qui dise maintenant, ça suffit la violence et on se permet autre chose? Mais en fait, ça m'a beaucoup inspiré Langue Torse. C'est-à-dire que voilà,
c'est
ça suffit.
C'est ce qui vous a permis de vous émanciper aussi du mythe, du coup, aussi. Parce que finalement, dans... Je ne vais pas dévoiler tout le texte, mais dans une deuxième partie, Philomèle va au-delà de l'histoire du mythe d'Ovide et va déjà dans la rencontre, va déjà presque dans la sensualité, pour ne pas dire l'érotisme, certains passages.
Oui, oui. Alors ça se croise. Ce n'est même pas vraiment une partie qui serait vengeance et une partie qui serait...
C'est vrai aussi.
C'est qu'en fait, ça s'entrecroise sans cesse, ce qui est un peu... étonnant par moment, c'est pour ça que c'est très difficile de lire des extraits, c'est qu'en fait, à longueur de temps, il y a beaucoup le mot langue qui revient, vraiment permanence, un peu comme une litanie, enfin quelque chose comme ça, c'est plus qu'une ritournelle, c'est presque... et en fait, il y a langue qui revient tout le temps, mais à côté de ça, il y a beaucoup de passages, et c'est surtout ceux-là qui sont les plus amoureux, où il y a « et si ». Et le « et si » permet à la fois l'espoir, la projection, l'au-delà, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, en tout cas quelque chose qui irait au-delà de la violence et qui se permet, s'autorise l'amour.
Si vous me permettez, j'ai justement sous les yeux cet extrait, ce passage qui est absolument génial. « Et si langue trouvée, et si langue trouée, et si langue troussée, retroussée babine, animal affamé ?» Et si langue toussée dépoussiérait le langage, et si langue détroussée, les vêtements comme les mots endormis, et si langue broussaillée, broutée, boostée, brûlée, langue verte d'herbe folle à délier, langue ruminante, lente, langue explosive et feu sans artifice, et si nos langues. On le voit ici très très bien dans cet extrait, le moment où Philomèle n'est plus seule et la langue de Philomèle va à la rencontre de quelqu'un d'autre, d'autre chose.
Oui.
Et alors ce geste d'aller à la rencontre, et c'est là où je me tournais vers Anaëlle, parce que vous, il y a quelque chose dans ce poème à Maud, à un moment donné il y a des poèmes qui sont en italique. Alors pourquoi ils sont en italique?
Alors, je vais répondre à cette question-là, et puis je reviendrai peut-être un tout, tout petit
D'accord,
peu sur,
sur
Langthor, ceci. Alors, ces poèmes en italique, ce sont des poèmes de Maud, je connais très très peu, hein, mais c'est vrai que ce soit en fait, que sa présence soit... y a une forme d'accord qui est fait aussi. J'écris pas des poèmes sur ou à la place de, ou c'est pas pour recouvrir, mais qu'il y a une forme de place qui soit faite à l'intérieur même du texte, à la langue de l'autre. C'est quelque chose qui était important pour moi. Voilà.
C'est un moyen de... Je trouve ça beau dans ce geste d'accueillir. C'est quelque chose de... Justement, c'est de l'accueil. Dans cet ouvrage de poèmes, il y a un espace... Peu, pas dénombré, mais il y a un espace pour que l'autre aussi puisse s'exprimer, finalement.
Oui, oui, certainement. Ouais.
Non, je ne sais pas, c'était le...
C'était, oui, c'était peut-être pas aussi... Enfin, voilà, il y avait ces poèmes-là. Mais c'est vrai qu'il y a aussi tout ce travail... pour moi, dans l'écriture même, qui est de, au moment d'écrire, de faire la place à l'intérieur de moi pour l'autre, en fait. C'est d'être dans cette écoute, dans cette écoute très particulière, qui est très fragile, qui est très délicate, très difficile aussi parfois, mais qui est nécessaire, en fait, pour faire advenir à travers soi et à travers le langage, en fait, l'autre.
Qui puisse rentrer en soi.
Voilà, oui. Faire cet accueil-là, je pense que cet accueil-là, il existe aussi là. Et ouais.
Ça veut dire que votre écriture a changé après cette rencontre ?
Alors, ce travail-là, je l'avais commencé déjà avant, mais c'est vrai que cette écriture, elle a été, voilà, il y a déjà un espace qui s'est ouvert, il y a un livre qui existe, et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, effectivement.
Mais vous vouliez revenir sur Langthor, ceci.
Juste, voilà, sur Langthor, en fait, quand, bon, alors je l'ai lu avant qu'il paraisse, même bien avant, et en fait, c'est un texte. Moi, quand je l'ai entendu lu d'une traite dans sa première version, qui m'a complètement, je me suis dit génial, en fait, quelque chose d'une énergie. D'une liberté, d'une expression que je désirais depuis longtemps dans la poésie, là avait trouvé son espace et surtout se déployer d'une manière, mais qui me semblait sans limite. À certains moments, je jubilais, et c'est vrai que pour moi, les grands poèmes sont des poèmes qui me font jubiler. Et là, je me suis dit, ça, c'est vraiment pour moi, je reconnaissais un grand poème. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans ce texte-là qui va justement, dans son processus d'émancipation, dépasser beaucoup, beaucoup de limites, qui sont des limites, peut-être même d'époque ou quoi. Enfin, c'est un poème qui va complètement, justement, transcender les périodes, il me semble.
Je propose qu'on revienne sur encore un extrait de Langthor. Tenir sur longueur de langue, ondes ondées, ça inonde. Tenir, saute, élastique du temps sur corde. Il pleut sur langue, tirer à perdre haleine, perdre pied, perdre voix, souffle, perdre. Et le haine, prendre. Il chante sur langue, le haine s'est immiscé. Attiré, aimanté, ça s'étire, ça ne veut plus être séparé. Ça s'exprime, imprime, mot sur chair, tatoué ma langue, noir sur lit de nuit, langue nue, su, plus, goutte langue, goutte à goutte, langue à langue, tenir.
Hate speech, brass neck, facelift, hard right, far left. I want, doesn't get. drink more, suffer less. Clickbait, mistake, makeshift, piss take, force feel boredom. This game mistress solves your problems. Keep up, drift off. I want lift off. Hardcore, last straw, postcode, passport, class war. Stop suffering, dance more. Expect less than you asked for. I can understand, staring at your hands. Like this wasn't what I planned. I can really see how hard it is to be watching it all happen like this really isn't me. But I can really trust that when everything erupts, our particles will still remember how they crushed each other into dust, each other into dust. Everything's enough, everything erupts. Nothing to prove but bread, nothing to lose but sleep. Nothing to do but less, nothing to want but peace. Nothing to shoot but breeze, nothing to hold but tight. Nothing to make but night, nothing to hate but life. Nothing to want but more, nothing to take but time. Nothing to prove. Face top down, jackpot, groupthink, update, newsflash, latest new thing. I get, doesn't want, turn it off and on. Cutthroat, catch up, blacklist, binge watch, breakthrough, breakdown. You're round, my shout. Nice life, nice house, I want lights out. Hardcore, dance floor, rosé, nosebleed, glass jaw. Stop suffering, laugh more. Expect more than the last straw. I can understand, staring at the sand, shifting in the glass like this wasn't what I planned. I can really see the edges of the key. It doesn't fit the lock, but you make it turn for me. I can really trust that when everything erupts, nothing will be left untouched. I can really tell, even when it's going well, the pendulum is readying to swing back on itself. Nothing to prove but bread, nothing to lose but sleep. Nothing to do but less, nothing to want but peace. Nothing to shoot but breeze, nothing to hold but tight. Nothing to make but night, nothing to hate but life. Nothing to want but more, nothing to take but time. Nothing to prove.
A journey, that's where the focus is. So if it gets focused in the right way at the right time, it's gonna get done, but you have to keep trying.
Chute libre, vous êtes sur Radio Aligre. Je suis avec Motiria et Anaël Chanli, et Motiria va nous relire un petit extrait de Langue Torse sur le mythe de Philomèle.
Délangue-moi, relangue, pourlangue-moi, ralangue, harangue-moi, déglingue cette vieille carlingue de langue, arrange-moi de musique, dérange-moi de tes clics et tes claques sans prévenir, allonge-moi sur langue de terre, ma langue a soif de surprise, n'a de prise que pour ça, que tu mordis mes écoutilles, frétille au moindre son, vent en nos mots qu'on entortille, venteuse langue amoureuse, androgyne filandreuse. Épouse ma langue, traduis-la, ensalive-la de tes mots, langue étrange, familière, illettre-la, écume aux lèvres, analphabète ma langue, rends-la vierge de tout langage, dans l'avant-sens, tire la langue, oui, tire-la pour translater mon dire et jouir de trouvailles étrangères. Surprends ma langue, dévie, dépouille-la, cette vieille carcasse, désosse-la et encharne-la, autre. Oui, aime-la tellement que, sous tes doigts, les mots respirent. Langue renouvelée, enduite, cimentée d'ailleurs et, dans le creuset, soupire.
Cette langue qui se matérialise presque, à vous écouter, Maud, en fait, vous l'avez aussi matérialisée. Tous les deux, et c'est là aussi tout le point de cette rencontre dont on a vu dans cette émission qu'elle avait transformé vos œuvres, vous transformé, mais elle s'est matérialisée puisque vous avez réalisé, vous avez expliqué une tenture tous les deux. Alors comment c'est venu et de quoi elle se compose? Mettez-vous d'accord.
Alors, non mais. Assez rapidement, en fait, on a eu cette œuvre-là. Quand Maud me l'a lu, il y a eu le désir de faire quelque chose ensemble. Et surtout, en fait, c'était une œuvre totale. Maud avait le désir aussi d'en faire autre, enfin de la déployer dans plein de directions, et notamment cette question de, on savait pas si c'était une tenture, un paysage d'écriture, mais où il y avait l'idée quand même de proposer quelque chose d'autre et puis d'essayer de lui donner des prolongements, voilà,
mais de l'étirer, voilà, donner une dimension, de faire sortir, voilà.
et que ce soit sur tissu et pas sur papier, puisque donc les paysages d'écriture, ouais, d'Anaëlle sont sur papier. Là, vraiment, on voulait travailler sur tissu parce qu'on voulait justement faire une référence à Philomèle, même si on n'a pas tissé sur métier à tisser, on n'a pas appris assez vite. Mais globalement, on a acheté un grand pan de tissu, quand même de 9 mètres carrés, 3 sur 3, et en fait, écru. Et on a décidé, alors Anaëlle a justement réalisé un paysage d'écriture à partir de Langue Torse, donc il a réinscrit en paysage d'écriture tout le livre. Et un peu sa suite, puisqu'il y a une suite. Donc c'est toujours en cours, en fait. C'est ça qui est aussi assez excitant, c'est que ça continue.
C'est une tenture qui vit.
Il y en aura d'autres, mais je pense que celle-là, elle continue aussi à vivre. Et en fait, on a eu l'idée de parce que en fait, je suis aussi artiste, de broder ensemble des fils rouges, des fils de laine, des fils de tissu. Enfin, voilà, on a, quand je dis broder, c'est en fait coudre, mais chacun à sa manière, parce qu'on a avait chacun un bout, donc à 3 mètres l'un de l'autre, en fait, on tissait des fils rouges, enfin, on cousait des fils rouges en laine, donc en plein de matières, mais toujours rouges. Et en fait, en ayant une manière de coudre différente, donc en plus, c'est assez amusant, parce que finalement, ça se retrouve, et on se rejoignait au bout d'un moment, au
sans
milieu.
Faire exprès. Ou,
voilà, en fait, voilà. C'est... Il y avait quelque chose de la surprise.
Aussi.
On se rencontrait aussi au moment de tisser, d'ailleurs. Voilà. Et ça fait finalement un paysage autre, puisque et tout ce qui est rouge et qui participe à ce paysage ne recouvre pas l'écriture, parce que l'écriture a été première. Donc le but du jeu, c'était quand même de ne pas recouvrir les lettres, mais de se tordre autour. Donc il y avait aussi l'idée d'une torsion, mais de se tordre autour des lettres pour former comme des, ça peut être comme des cours d'eau ou comme donc il y a comme une cartographie en fait avec ce rouge là en fait qui est rouge sang,
qui vient dessiner un paysage,
oui, et puis qui est le rouge sang, voilà, du tissage de Philomèle.
C'est là où les deux œuvres se rencontrent finalement aussi, sur cette tenture.
Bien
vous
sûr.
Les œuvres, les deux projets finalement se retrouvent
et il y a aussi cette joie extraordinaire en fait qui est d'être de pas avoir la même manière de faire et de se laisser complètement emporter dans le mouvement de l'autre. Et moi, j'ai quand même un travail assez minutieux qui maîtrise quand même si je laisse beaucoup de place à ce qui vient.
20 ans de pratique.
Ben, ça fait, voilà, ça fait quand même, ça fait énormément de bien de se laisser surprendre par le geste de l'autre.
Moi, je suis plus brute. Hein. Non, mais c'est vrai, j'ai un côté très brut. J'y vais, j'ai cousu le titre de la couverture de mon livre.
Hein, donc, c'est une broderie aussi.
C'est cousu main et mal cousu, mais en fait, ça m'allait assez parce qu'il y a un côté cicatriciel. Enfin, voilà. Donc et en fait, dans cette couture, il ne s'agissait pas de faire du beau. Il s'agissait, en fait, finalement, la couture faisait sens avec ce rouge employé. Et on a trouvé tous les deux une manière de faire qui finalement se rejoint. Et puis peu à peu, je pense qu'on se retrouvait, en effet, à travers le tissage.
Est-ce que vous avez découvert, à travers tout ce que vous nous avez raconté, votre perméabilité ? C'est-à-dire que vous disiez, on se laisse un peu prendre par l'autre. Est-ce que finalement, alors je ne sais pas si vous l'avez découvert, parce que c'est quelque chose qu'on expérimente, voilà, mais tout ce que vous décrivez, j'ai l'impression que c'est cette notion de perméabilité, on est perméable à l'autre.
Bah, moi, pour ma part, je dirais que c'est quelque chose. J'ai découvert la joie de cette perméabilité. C'est-à-dire, en fait, ça pouvait être heureux. Parce que sinon, c'est quelque chose que j'ai toujours vécu. En fait, je suis toujours perméable. Par contre, c'est quelque chose qui peut être assez violent dans certaines circonstances et par rapport à certaines personnes et par rapport à un certain contexte politique ou voilà.
Et là c'était la perméabilité
sociale, mais là,
heureuse
cette perméabilité est heureuse surtout parce que elle se multiplie, elle se décuple, voilà,
sans se fusionner, c'est toujours
sans aller, c'est pour ça,
sans se perdre en fait, parce qu'on a chacun je pense qu'on avait déjà chacun son univers, donc ça crée quand même une force supplémentaire. On n'a pas commencé ensemble, on avait chacun écrit l'un et l'autre, et puis on a chacun aussi eu un travail artistique l'un et l'autre. Donc finalement, quand on agit ensemble, il y a un respect de chacun sa place, tout en se laissant justement perméable ou pour eux à l'autre en fait,
et aller à la rencontre.
Voilà.
Merci beaucoup, merci à vous deux pour votre témoignages, très beaux témoignages. Maud Thiria pour Langtor, Sanaël Chadli pour Poème à Maud. Les deux livres sont aux éditions Lanskin. On remercie Milan à la régie. La semaine prochaine, vous retrouvez Paul de Brancion pour Chute Libre également, vendredi 18h. On vous souhaite une bonne semaine et un peu de frais, on espère aussi. Merci à tous, au revoir.
Merci. Merci. Casa não, vivo na maré. Ela me leva a você e onde eu quiser. Ele pode me acalmar, como não pode ninguém. Eu não tenho casa não, vivo na maré. Eu não tenho casa não.
Entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie.